Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. C'est Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast, et vous avez de la chance car j'ai décidé aujourd'hui de vous dévoiler un épisode que je voulais garder pour finir la saison en apothéose. Mais j'ai finalement changé mes plans pour vous donner du baume au cœur en cette drôle de période, avec un formidable duo de restaurateurs. Il s'agit de Bertrand Grébeau et Théo Pourria.
On essaye de montrer à nos équipes, de transmettre un modèle de vie aussi un petit peu différent. Le fait d'avoir pris du recul en ouvrant plusieurs adresses et en travaillant différemment, ça veut dire prendre du temps pour soi et pour sa famille et montrer qu'un chef aujourd'hui, c'est pas l'autorité omniprésente comme on le voit encore dans les grandes maisons ou comme on le voyait à l'ancienne, et qu'on peut fonder une famille, être restaurateur, on peut travailler de façon éthique, avoir un resto plein, être créatif, faire ce métier du mieux qu'on peut et montrer un autre modèle qui est plus inclusif et plus basé sur le collectif plutôt que sur la figure unique d'un chef, quoi.
À la tête des très en vue Septime Clamato, Septime Lacave et Dunil, Bertrand et Théo forment une paire hyper inspirante. Leurs adresses vibrent d'un feeling rare, ce supplément d'âme dont il est question dans l'épisode. Non seulement délicieux, leurs établissements offrent, au-delà, une vision de la restauration vivante, globale, intelligente, en prise avec un monde en mouvement. Avec Théo et Bertrand, nous avons beaucoup parlé d'amitié, de confiance, de terrain de jeu et d'éthique. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'À Poil est maintenant partenaire dès la table et à ce titre, le podcast est disponible pendant 48 heures en exclusivité sur elle.fr avant de rejoindre les plateformes traditionnelles de podcast. N'hésitez pas à aller écouter chaque épisode en avant-première sur leur site. Et maintenant, bonne écoute et prenez bien soin de vous. Bonjour Théo et bonjour Bertrand. J'ai vraiment voulu faire ce podcast sur votre duo parce que on vous entend assez souvent séparément, mais peu ensemble. Et Septime, c'est vraiment l'histoire de votre duo. Vous avez été pote de lycée, puis coloc, si je ne me trompe pas, avant d'être associé. Quand est-ce que vous avez parlé pour la première fois d'ouvrir un restaurant ensemble ?
Nous, on se connaît depuis, c'est vrai, longtemps, parce qu'on s'est rencontrés quoi, quand on avait 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Et si rien ne nous destinait ou pas grand chose nous destinait à faire de la restauration, à partir du moment où on s'est lancé là-dedans, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, assez vite en fait, on s'est, sans se le dire, sans jamais se le dire, on a toujours su qu'on ouvrirait un truc ensemble.
Ouais, dès que en fait, Théo s'est lancé en premier, moi j'étais encore dans le graphisme à l'époque, et puis une fois que j'ai abandonné ça pour me lancer, je pense que dans les 6 mois qu'on suivit, on s'est dit quand même que c'était l'occasion. Il y avait déjà un cuisinier et un directeur de salle, c'était pas mal.
Oui, pour rappel, le truc incroyable, c'était quand même que quand ton mémoire de fin de Ferrandi...
Ouais, parce que le mémoire à Ferrandi qui valide le diplôme en fin de cursus, c'est une reprise ou une création de restaurant. Donc moi, c'était... J'avais mis une potentielle reprise du restaurant Sasso, qui appartenait à Julien Cohen à l'époque, où Théo était d'abord employé puis directeur. Et à l'époque, donc c'était la reprise potentielle du restaurant Sasso avec 2 associés, Julien Cohen et Théo Pourria, qui sont donc nos associés.
Et ça, on est en quoi en
2004.
2004, ouais.
Voilà, je démarre la formation et donc très vite, il faut fixer un peu le cadre de ce mémoire et c'est ça le cadre. Et donc du coup, déjà... on en parle ensemble, on fait une carte des nourritures, on fait une carte des vins, on parle de déco, on fait c'est déjà les prémices de Septime en 2004 sur un projet d'école, quoi.
On est retombé dessus d'ailleurs là sur le projet il y a pas longtemps, c'est tout est écrit, quoi. Tout est
ouais,
là
c'est pas
et
loin
c'est...
Ouais. d'être le ouais. résultat final.
Ouais, c'est marrant.
Ça s'appelait comment? Vous lui aviez donné un nom?
Ah ouais, je m'étais pas mouillé, c'était le numéro de la rue, genre le 123 ou le...
Ah oui, c'était, bah c'était au combien ?
C'était à quelle adresse ?
Bah 123 rue du Château et... 36... Non, le 123, c'était ouais, ça, le 123. C'était...
Ni l'un ni l'autre, comme tu disais, n'avait grandi dans cet univers de restauration. Quand et comment avez-vous eu la révélation ?
Ouais, pour ma part, j'ai grandi dans une famille où la table a une place importante quand même. La table, le vin, etc. Le moment du repas, donc déjà c'est des bonnes bases. Mais ensuite, oui, évidemment, pas du tout. Donc, je fais un bac littéraire, fais des études d'art graphique au début. Je pense, je sais pas, ça s'est fait un peu par hasard. Je m'ennuyais, moi, pas mal devant l'écran d'ordinateur. Et puis, je travaillais avec un copain qui m'a dit un jour, tu penses quand même vraiment plus à cuisiner pour nous et à aller rejoindre Théo chez Sasso pour manger un morceau en fin de journée. Donc, il faudrait peut-être que tu creuses de ce côté-là. Et voilà. Donc, je me suis lancé un peu par hasard. Et puis, ça a pris...
Ouais, moi j'ai fait bac général, j'ai toujours eu, pareil, grandi comme ça dans des familles où c'était joyeux, la cuisine, où il y avait, enfin, il y a toujours eu ce terrain-là, mais pas, je dirais pas vraiment plus que pour quelqu'un d'autre. Et j'ai entamé des études d'économie et de gestion à Paris-Neuf-Dauphine, s'il vous plaît. Et j'ai fait deux premières années et la troisième année c'était une deuxième année où j'ai pas été au bout. J'ai commencé à bosser l'été dans les restaurants de mon beau-frère Julien Cohen, les Cailloux dans le 13e arrondissement, restaurant italien. Et là ça a été un peu la révélation, ou planche de salut, ou je sais pas. En tout cas c'était ça a été ouais vraiment un choc et je suis plus jamais parti. Voilà, donc j'ai tout de suite commencé en salle derrière le bar, puis serveur, puis assez vite directeur de resto par un concours de circonstances. Et Sasso a été un peu la plateforme où Bertrand passait le soir, où les copains passaient le soir, et ça a mis le pied à l'étrier, quoi.
Quand tu as commencé Ferrandi, ça t'a tout de suite plu ? Est-ce qu'il y a quand je disais révélation aussi, est-ce qu'il y a eu un truc où tu t'es dit « ça y est, là, je suis dans le bon, au bon endroit ?»
Ouais, alors d'abord, il fallait faire un petit stage avant de démarrer l'école pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé. Donc j'ai fait 15 jours, hein, c'est pas grand-chose, mais 15 jours de stage dans le resto où Théo bossait. Donc j'ai appris à faire le risotto, puisque c'était un resto italien, j'étais ravi. J'ai fait 2-3 trucs, j'ai senti que ça me plaisait, mais je suis arrivé à l'école, ça a commencé par un stage d'intégration. J'étais assez pétrifié. Un des premiers soirs, il y a eu un grand repas fait par tous les élèves. Ils étaient tous hyper à l'aise. Ils se sont lancés dans la cuisine. Moi, j'ai regardé. J'osais pas toucher à quoi que ce soit. Je me suis dit, oups, ils ont l'air très doués, tous ces gens, déjà très au courant. Et puis finalement, il y a eu un premier TP. Je m'en rappellerai toujours. C'était brider un poulet, je crois, et lancer un fond blanc de volaille. Et c'est idiot, mais j'ai bridé ce poulet, hyper appliqué et tout. J'ai levé la tête, j'ai vu que j'avais fini en premier. Je me suis dit, bon, ça va, je suis pas si nul. Et puis ça m'a donné confiance, c'est bête, mais c'est un moment qui m'a donné confiance. J'ai commencé à m'investir à fond dans la formation. Et puis pour la première fois, j'étais premier de la classe. Ça m'était jamais arrivé, quoi. Et j'ai pris goût, quoi. Et puis, premier stage, ça m'a mis dans le doute. C'était très dur, hein, la réalité du métier. Et puis petit à petit, voilà, je me suis formé, je me suis...
Il y avait des
révélations.
Il y avait des chefs que tu admirais à cette époque, enfin, quand tu as commencé ou avant de commencer, tu vois, des restos où tu aimais aller.
Alors c'était un peu... Faut se remettre dans le contexte. Il n'y a pas d'émission de télé-réalité cuisine. Enfin, télé-réalité, c'est un peu... Il n'y a pas d'émission de cuisine à la télé. On n'a même pas encore 8 chefs avec Cyril Lignac. Et du coup, ce que j'avais lâché pour faire de la cuisine, c'était assez inattendu. C'était pas du tout glamour, c'était pas du tout cool d'être chef. Donc c'était vraiment un milieu encore très institutionnel, limite ouvrier, etc. Donc il y avait quand même, c'était pas, les chefs faisaient pas rêver comme ils font rêver aujourd'hui. Donc ce qui m'attirait, c'est d'avoir 3 étoiles, d'être meilleur ouvrier de France. C'est un peu ce qu'on inculque davantage dans les écoles hôtelières. J'avais pas encore compris comment ça allait se passer.
À cette époque-là, on habite ensemble. On est en coloc, en fait. Et on vit cuisine, on parle cuisine, on fait que ça. On va au resto, on pense à là où on va aller manger le soir même ou le lendemain, à ce qu'on va mettre dans la cave, à ce qu'on va boire, au nom qu'on a pu croiser. on fait que ça. À la maison, il y a les copains de Ferrandi qui passent. Le soir, on se retrouve dans les restos. Enfin, vraiment, on fait que ça. Donc, on sent quand même, au-delà de la passion, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, là, à ce moment-là, au-delà de ça, on sent qu'il y a un truc, en tout cas, qui est en train de se jouer, quoi, de changer. Et on est hyper content des endroits où on va, parce qu'ils sont ou bons, ou beaux, ou... où l'ambiance est bonne, où on boit bien, mais on sent qu'il y a quand même, déjà on sent qu'il y a il y a pas un endroit où il y a tout, quoi. On est un peu insatisfait de ce truc là déjà à l'époque. On le formule pas, mais je pense qu'on le ressent.
Théo, tu avais des modèles, toi, de ton côté, de directeur de salle, de serveur, de gens qui te motivaient ou à qui t'avais envie de ressembler?
Non, absolument pas. Alors, faut pas mal interpréter, mais non, j'ai jamais été hyper inspiré par des serveurs ou directeurs de salle. Alors, déjà, à l'époque, le métier de cuisinier n'était pas hyper sexy ou glamour. Alors, autant celui de serveur, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc, non, je pense que c'est plus le tout qui m'a inspiré. Et j'ai jamais, et c'est peut-être la force aussi de notre... collaboration, amitié depuis si longtemps. Enfin, on n'a jamais analysé les relations salle-cuisine comme ce qui a pu être le cas d'adversité ou de... ça a jamais, enfin, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. On a toujours, j'ai toujours aidé les cuisiniers. On servait la même cause et c'était un truc complètement transparent, quoi. Les deux métiers étaient vraiment imbriqués l'un en l'autre. Donc, je ne me suis jamais vraiment identifié à des grands directeurs de salle ou... non, pas vraiment.
De cette frustration et naît Septime, donc de ne pas trouver le lieu finalement idéal, parce que vous dites souvent que vous l'avez imaginé comme un lieu où vous aimeriez être client.
Ouais, alors même si on sentait, on fréquentait pas mal de restos, mais moi j'étais quand même cloisonné dans un registre étoilé, assez coincé, où j'apprenais de la technique et tout ça, mais j'avais pas du tout encore compris comment on allait faire le pont entre ce que j'apprenais et ce que je vivais et l'ambiance dans laquelle je travaillais dans ces grandes maisons et le côté cool des restaurants où Théo travaillait, ce truc plus abordable, les caves je sais pas, à l'époque on allait manger un bout et boire un coup au verre volé, mais j'arrivais même pas à imaginer comment on pouvait faire le pont entre Robuchon ou l'arpège ensuite et le verre volé, c'était inimaginable. Et finalement, je pense que quand j'étais à l'Arpège, à un moment, je suis allé avec Sven Chartier à l'époque dîner au Châteaubriand. J'ai compris que là, il se passait quelque chose quand même de très particulier et qu'il y avait peut-être moyen de faire une cuisine de bon niveau dans une ambiance beaucoup plus cool. Et c'est toute la force de notre association, c'est que Théo venait d'une autre formation, d'autres cadres, et ça a permis de faire ce compromis, quoi.
Ouais, à l'époque, alors on parle comme si on avait 90 ans, quoi. Mais non, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça peut paraître idiot, mais ce pont-là entre un endroit qui veut une déco un peu chiadée ou pertinente, une cuisine de haute volée et un service sympa, en fait, on a du mal à le trouver, cet endroit, quoi. Et aussi simple que ça puisse être dit, on se dit, allez, on y va, on lance là-dessus. Mais t'as raison, ouais, absolument pas au début. Bah, d'ailleurs, le premier service peut en témoigner, c'était pas gagné.
Pourquoi c'était pas gagné?
Quand on fait un restaurant, alors encore plus quand c'est le premier, on donne tout, on investit tout dans les travaux, dans ce à quoi ça peut ressembler. Il y a toujours cette petite... l'effet à la fin, juste avant l'ouverture, la baguette magique, on sait pas vraiment quoi, qu'est-ce qui va se passer. Et là, le premier service avec les copains et la famille, heureusement, on n'y était pas, quoi. Juste, c'était un vrai service test, quoi.
C'était l'horreur.
C'était un peu la catastrophe. Il a fallu qu'on s'accorde. On se connaissait par cœur en tant que copains, mais pour le coup, on n'avait jamais bossé ensemble. Donc, les assiettes, je découvrais, on découvrait tout, quoi. Le service, comment on se plaçait, comment on se bougeait, quoi. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire. Et il a fallu qu'on l'écrive très, très vite, quoi.
Puis c'était la découverte de votre duo, finalement, aussi.
Ouais, complètement. Moi, j'avais travaillé dans des restaurants plus cool, entre guillemets, c'est-à-dire pas forcément moins rigoureux sur la qualité de la mozzarella ou des produits ou de la charcuterie qu'on pouvait aller chercher en Italie, mais en revanche beaucoup moins créatif, beaucoup moins moderne, enfin beaucoup moins une cuisine d'auteur, quoi, si on peut dire, de chef, quoi. Et tout ça a été très nouveau. Bertrand, lui, pour le coup, avait travaillé avec des gens en salle, que ce soit à l'Arpège ou à l'Agapé, ou dans des, où les standards n'étaient pas du tout les mêmes. Bon, tout le monde a dû, on a tous dû faire un grand pas l'un vers l'autre, quoi, pour que ça aille. On s'est rencontrés à un endroit où c'était, je pense, qui n'existait pas trop à l'époque, quoi.
Et ça a été dur de passer de, d'employé à patron.
Ça a été dur d'un point de vue de la responsabilité, c'est toujours dur. Entre un moment où, enfin, quand on est employé et quand on est, mais même seconde cuisine, hein, quand on est employé, la journée s'arrête, on rentre chez soi et on baisse le rideau et c'est fini. Donc, évidemment, ça a été dur d'un point de vue de la responsabilité et de la charge mentale. Mais après, moi, ce qui m'a vraiment fait souffrir dans les grandes maisons, c'est une certaine forme d'injustice, c'est une autorité à outrance, une hiérarchie exagérée parfois. Donc de toute façon, je savais qu'un jour on serait chez nous. Enfin, il fallait que ça se passe assez vite. On a ouvert, on avait à peine 30 ans. J'aurais pu en théorie faire encore 5 ou 10 ans dans des grandes maisons pour parfaire ma technique et mes connaissances, mais on a eu rapidement, je pense, tous les deux un besoin d'autonomie et de liberté, donc c'était pas si dur que ça.
Ouais, on avait vraiment envie d'écrire un truc plus personnel. En revanche, il y avait bon, à l'ouverture, on est vraiment c'est une toute petite équipe, Septime. On est à la fois patron, mais vraiment à la fois tellement au contact avec l'équipe et tellement on est combien on est à l'ouverture, 4 et 3, 7, on doit être 7. Donc c'est vrai que on apprend tous les jours. Auparavant, je m'occupais déjà des équipes des restaurants de Julien, donc j'avais quand même un petit peu de j'étais un peu familier avec ça, avec un peu la RH entre guillemets, parce que c'est pas au sens où on l'entend, mais plutôt parler avec des gens, le management, etc. Mais c'est vrai que là c'est très différent, et encore aujourd'hui, enfin on apprend tous les jours. Aujourd'hui, on est passé donc de 7 en 2011 à, je pense, on doit être une cinquantaine aujourd'hui. Sur toutes les adresses, c'est plus le même métier. Il ne faut pas croire que c'est le même métier. C'est autre chose.
Ça a été plus facile pour vous d'être deux dans cette aventure, vraiment d'entreprendre, de devenir restaurateur à deux, plutôt que tout seul?
Ah bah c'est rien de le dire. Je pense que c'est inestimable la chance qu'on a quand on a un duo de confiance comme ça. C'est-à-dire qu'on ferme c'est la moitié du boulot, on ferme les yeux sur la moitié du boulot. Donc même si on se retrouve régulièrement sur les grandes décisions, je ne me verrais pas envoyer une cuisine qui ne lui plaît pas, et je pense que c'est pareil de l'autre côté. Mais tu fermes les yeux sur la moitié du boulot, tu as une confiance aveugle, tu prends les décisions difficiles à deux, ça n'a rien à voir. Comparable.
Ah bah c'est vraiment 50-50, on l'a ouvert comme ça, et c'est toujours géré de la même manière. Après, étant ami avant d'être partenaire dans le business, on se connaissait vraiment très très bien, donc on avait, je pense, aussi cette chance inouïe, quoi. Donc, et encore aujourd'hui, on échange beaucoup, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'échange pas, parce qu'il n'y a pas besoin d'échanger. Il est dans ma tête, je suis dans sa tête, ça marche super bien depuis le début. Donc à l'ouverture, quand on ouvre le restaurant, c'est un gain de temps inestimable, ça. Et moi, j'aurais pas pu envisager ouvrir un restaurant, en tout cas, comme ça, ou même, ça me serait pas venu sans avoir un équivalent en cuisine.
Effectivement, c'est plus difficile de se projeter à ouvrir un restaurant quand t'es en salle et que t'as pas la partie cuisine, mais quand t'es en cuisine, ça peut peut-être être plus facile de se dire j'ouvre tout seul parce que j'ai la grosse base de... Enfin, ce que j'imagine que les gens puissent se dire, même si bien sûr, on le voit là, les deux comptent énormément.
Je pense que ça, c'est l'opinion courante. Nous, je pense qu'on prouve pas mal le contraire, parce que si le restaurant a eu autant de succès, si ça dure autant et si on a pu se développer, c'est que parce qu'on était deux. Moi, jamais de la vie, j'aurais pu porter un truc pareil seul. Et je pense que c'est pas parce que la cuisine est la face super visible de l'iceberg que, en fait, le reste est pas moins important. Et la force de Septime, et je pense même la valeur ajoutée, ça a été le service quand même à plein d'égards. Il y a quand même un plus, il y a quand même quelque chose qui se passe chez Septime dans le service, dans la manière dont on est reçu, que j'aurais jamais pu trouver, que j'ai pas vraiment vu ailleurs. Donc je pense que c'est pas vrai. Alors évidemment, c'est quand on est restaurateur, qu'on ouvre des restaurants, qu'on n'a pas de chef associé, peut-être qu'on rame un peu plus dans le recrutement là-dessus. Dans ce qu'on a réussi à créer, c'était impossible tout seul, quoi. Donc,
l'impression d'être en thérapie de couple. On se dit rarement ces choses-là.
On n'a pas trop de problèmes.
On se dit rarement ces choses-là. Et vice versa. En fait, je pense que ça se joue exactement pareil en salle, c'est-à-dire que la chance de bosser au quotidien. Avec Bertrand, c'est de laisser la place justement à toute la salle. Je parle pas à moi personnellement, mais aux équipes de salle aussi, et de pouvoir valoriser ces métiers qui sont souvent relégués derrière les égos des chefs, etc. Et que là, en l'occurrence, la salle a su prendre sa place, a su raconter vraiment une histoire, assumer quelque chose qui c'est pas forcément le cas dans d'autres restaurants gastronomiques ou pas d'ailleurs, hein, où souvent on vient pour la cuisine, ouais c'est super bon, mais on sait qu'il y a tout le reste, tout le monde sait qu'il y a tout le reste. Le vrai souci des métiers de salle, c'est qu'on sait pas en parler. Il y aura pas de top serveur, quoi. Ça serait terriblement chiant à la télé, donc. Voilà, il faut arriver à donner des mots, à théoriser un peu ce métier et à avoir des chefs qui laissent la place à autre chose qu'à la cuisine.
Et ce dont on ne parle pas finalement, c'est que moi, si j'ai pu avoir un confort de travail extraordinaire pour me renouveler, changer le menu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois depuis 9 ans, c'est aussi parce que j'ai pu m'occuper que de ça. Comme on a tendance à dire que je m'occupe de ce qui se mange et qu'il s'occupe de tout le reste, c'est à peine exagéré. Même si on prend les décisions ensemble sur les choses importantes, c'est vraiment ça. Et moi, dans ma formation, j'ai rencontré plutôt des directeurs de salle qui ne salissaient pas les mains, des sommeliers qui ne portaient pas une assiette. Voilà. Théo, il a plutôt tendance à aller déboucher les chiottes, s'occuper des tâches ingrates administratives, relire les projets de statut, les trucs comme ça, totalement indigestes. En fait, vous imaginez pas le confort que ça peut permettre. Et du coup, au niveau créativité, pour moi, j'aurais jamais été aussi disponible et créatif si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu ce confort.
Donc toi, c'est facile de s'imaginer tout ce qui se mange, mais c'est vrai que Théo, c'est tout ce qui se mange pas, ça, c'est assez large finalement.
Ouais, c'est assez large. Alors je peux pas te faire une liste, en fait, c'est pas possible. Sinon, je peux sortir mes to-do, mais ou les to-do communes suivant chaque endroit. Non, en gros, la salle est plus parce qu'en fait, donc aujourd'hui avec Septime, Clamato, La Cave, Dunil, la maison de campagne dans le Perche. Il y a aussi une autre adresse qu'on nomme pas, c'est le bureau, parce qu'en fait, on est obligé d'avoir un bureau à un moment et d'avoir des gens, des collaborateurs qui travaillent au bureau. Et je peux pas dire la multitude des tâches, mais bon, c'est ce qu'on aime aussi dans ce métier. C'est pas forcément déboucher les chiottes, mais entre autres, mais que ce soit passer de la sommellerie du vin à échanger avec les collaborateurs, à organiser une journée du staff, à faire des contrats de travail, à programmer des playlists pour les musiques dans les restaurants, à faire les 12 milliards de travaux, de retouches, ajustements, entretiens qu'il peut y avoir dans toutes les adresses. J'ai même pas assez de... C'est sans fin, quoi. Mais Et ce qui est chouette, c'est d'avoir toujours eu le soutien, parce que je ne pourrais pas avoir qu'un chef de cuisine. C'est-à-dire que rares sont les restaurateurs qui arrivent à endosser ça seul. Et nous, bah, quand il y a une petite baisse de mou, parce qu'en tant que dirigeant, on a aussi des petites baisses de morale, de tension des fois. Bon, bah, là, il y en a toujours un pour retirer l'autre vers le haut, remettre, se renvoyer. C'est un ping-pong perpétuel qui est hyper agréable.
Et tu goûtes la cuisine de Bertrand ? Enfin, tu goûtes souvent ? Est-ce que vous vous demandez mutuellement vos avis ? Vous disiez que vous échangiez pas toujours beaucoup parce que vous connaissez très bien, mais voilà, quand même, est-ce que vous échangez sur certaines choses ?
Alors, pour répondre simplement à la question, non, parce qu'à la base, déjà, je lui fais une confiance aveugle là-dessus. Alors, ça ne veut pas du tout dire que ça ne m'intéresse pas, mais c'est qu'on a commencé, avant de travailler ensemble, à manger ensemble. Et s'il y a un truc qui n'a jamais changé, en 23 ans d'amitié, je crois que c'est... Enfin, je ne sais pas, je crois, j'en suis sûr, c'est qu'on mange toujours la même chose. Et on aime toujours les mêmes choses. Et du coup, en fait, dans les équilibres de menu, dans les plats, dans les etc., indépendamment de la créativité que je n'ai absolument pas, mais dans l'élaboration des menus ou des plats, etc., si moi, il y a un truc que j'ai vu, il l'a déjà vu depuis 5 minutes, en fait. Donc, mais pas vraiment, en toute sincérité, il n'y a pas une fois en 9 ans de Septim, Clamato, etc., où j'ai pas été d'accord, où il y a un plat qui ne me revenait pas, où il y a... Non, ça n'existe pas.
Qu'est-ce que tu veux que je dise ?
Non, toi, tu donnes ton avis sur le vin ? Ou sur la salle ? Ou sur...
Après, oui, c'est pas du tout hermétique. Tout est perméable. C'est-à-dire que moi, je goûte des plats, lui, il goûte les vins. C'est quand même un des rares chefs. Arrêtez d'en s'envoyer des fleurs, hein, mais bon, quand même. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui goûtent le vin et de manière intéressée et pas complètement désabusée et genre ça me passe au-dessus de la tête. Ou qui boivent que des appellations, etc. Non, on a comme une vision du vin hyper cohérente avec la cuisine. Et du coup, c'est plus davantage un échange permanent et une confiance permanente que quelque chose de complètement imperméable.
Oui, moi, je suis hyper intéressé par le vin. Donc, je goûte, mais je goûte en tout. Je crache.
Comme un client ?
Je crache.
Tu veux dire, enfin, tu goûtes par intérêt personnel ?
Non, mais je goûte par intérêt personnel. Et en général, à part dire... à part valider, acquiescer, j'ai jamais eu de... J'aime vraiment bien l'esprit de la carte des vins. Donc, j'aurais espéré faire la même si j'avais été... Non, mais vraiment, parce que c'est pas... La vision du vin chez Septim, elle n'est pas ayatollah, elle est quand même hyper, c'est très précis, c'est racé, etc. Donc moi, je m'y retrouve complètement, jamais. Donc je goûte pour le plaisir. Et donc l'échange, il se fait, hein. C'est-à-dire que il se fait naturellement parce que Théo mange à Clamato, s'il a des choses qui lui ont semblé importantes, il me fait un petit retour. Parce que voilà, donc on échange, mais c'est plutôt dans la bienveillance, mais naturellement, parce qu'il n'y a pas, c'est vrai qu'on est en phase sur
Vous
les choix.
Vous êtes en phase, ouais.
Ouais. C'est aussi ça, c'est qu'on a quand même des goûts assez proches, donc on a pas grand chose à dire, voilà. Et sur le service, c'est pareil, je suis assez plutôt bluffé de ce qu'on arrive à maintenir, des progrès même qui ont été faits, etc. Je suis assez en phase aussi sur le choix des équipes, donc c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Évidemment, s'il y a de façon très précise un truc qui cloche, on en parle, mais bon, ça arrive pas souvent.
Vous n'avez pas besoin de vous... de trop vous réajuster depuis ça va assez droit.
Si, en fait, on a un échange qui est permanent et bienveillant. Mais on donne pas un avis comme ça sur le boulot de l'autre. Il y a pas besoin. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les choses sont vraiment réparties 50-50. Donc on ferme les yeux parce que c'est très bien. Mais par contre. Si, des ajustements, chacun de notre côté, c'est quotidien, c'est permanent, c'est des doutes, des remises en question, c'est permanent, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé. Quoi.
Pas tant sur le duo, plus sur le...
Chacun sur sa partie.
Et ouais, sur l'avancée que vous voulez... comment vous voulez avancer dans vos domaines respectifs,
ouais.
et faire avancer le restaurant.
Ouais, des ajustements, chacun dans son travail. C'est pas l'un. Enfin, ouais, chacun dans sa tâche.
Et le fait d'avoir cette répartition 50-50, ou je sais pas comment on peut dire, chacun ce qui se mange, ce qui se mange pas, ça t'a toi, de ton côté, ça t'a aidé, tu disais, à vraiment être focus sur la cuisine. Est-ce que ça t'a... Enfin, est-ce que à la fois le fait d'être dans ton établissement et d'avoir cette chance d'être focus là-dessus, ça t'a permis de trouver ta voie culinaire ? Comment ça s'est fait au début et aujourd'hui, comment t'évolues ?
Oui, depuis le début, cette répartition des tâches, elle permet, comme je te disais tout à l'heure, un confort absolu pour travailler. Donc c'est un point de départ, c'est le point de départ qu'il faut, quoi. Une fois que ça c'est dit, c'est quand même un travail assez colossal de maintenir tous les menus de toutes les adresses en mouvement et de se remettre en question et de garder... de créer ce fil conducteur qui fait que les cuisines dans les différentes adresses se ressemblent, mais on répond à différentes attentes, différentes envies. Mais oui, moi j'ai des conditions idéales de travail, mais je passe mon temps à remettre en question ce qu'on fait dans toutes les adresses, à chercher des nouvelles idées. C'est le plus clair de mon temps. Et ça, il n'y a pas de problème, c'est juste du travail.
Comment t'as fait pour trouver ta propre voie culinaire, tu vois, après l'agapé, en fait, pense à ça et trouver la signature culinaire de Bertrand ou du Septime.
Alors c'est tout l'enjeu hein, d'un travail du cuisinier là. Je pense qu'il faut une carrière entière pour arriver à vraiment une vraie signature marquée. Et puis je pense que si tu l'as trouvé, soit faut arrêter, soit enfin il y a ma formation m'a construit là-dessus, donc évidemment d'être tombé à l'arpège sur la fin de ma formation à Ferrandi et d'y être resté après en tant qu'employé, c'est la chance, une des plus grandes chances que j'ai eues, parce que j'aurais pu faire des choix différents et finalement j'ai eu grâce à ça la sensibilité du végétal, de l'équilibre en général, etc. Donc ça c'était une chance. Puis derrière, il faut essayer de se trouver un style. Il faut essayer de créer une cuisine qui est reconnaissable. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est très influencé par le reste du monde. Parce que là, on mange de l'image en quantité délirante toute la journée. Donc, il faut arriver à rester sur ses convictions. Il faut essayer d'éviter les gimmicks trop présents dans l'époque, les produits trop utilisés, etc. Déjà, pour se démarquer un peu. On essaye d'être prescripteur plus que suiveur. Alors, c'est pas toujours facile. Et puis ensuite, il faut se fixer des lignes directrices, des contraintes. C'est la contrainte. Donc c'est l'espace, les moyens humains, les produits. Donc on s'impose de travailler qu'avec des produits français ou à 99%. On s'impose une certaine quantité de végétal dans les menus. Enfin, c'est le cumul des contraintes et après son univers perso qui font qu'on petit à petit on arrive à quelque chose qui vous ressemble et qui se reconnaît. Voilà. Mais je dois dire qu'on a fait beau. Je dis on parce que ça a été un travail d'une équipe et aussi de. Et je dis on parce que c'est pas la cuisine que de Bertrand Grébeau, c'est quand même vraiment la cuisine de Septime. On a toujours mis en avant Septime, ce nom-là, c'est important. Et c'est la cuisine du groupe parce que dans toutes les adresses, il y a un fil conducteur, on retrouve, on reconnaît le style. Donc on a progressé entre le jour de l'ouverture de Septime et aujourd'hui, mais après on est encore en quête. On n'y est pas, quoi, on n'y est pas.
Et t'as mis combien de temps ? Enfin, t'as mis 9 ans finalement pour arriver là, mais tu vois, cette réflexion, enfin, elle était dès le départ là, c'est venu petit à petit, c'est...
Mais j'ai été chef de l'Agapé pendant 2 ans, ça m'a permis de déblayer un peu. Bon, je faisais encore des trucs avec des fruits exotiques et bon, j'étais pas tout à fait... Hein. Même à l'ouverture de Septime, hein, il y avait un dessert chocolat au lait passion... Hommage à Pierre Hermé. Il y avait encore des trucs que je trouve aujourd'hui complètement à côté de la plaque, dans la, non pas dans l'idée en soi, mais bon, pour plein de raisons, de sourcing. Et donc je pense que les 3 premières années, ça a été vraiment de la construction, et que ça fait, même les 5 premières années, là je pense que ça fait 3-4 ans que ça s'affine, et que c'est déjà un peu plus abouti, mais bon voilà, je sais pas, il faut encore beaucoup de temps, Là, récemment, on a quand même réduit un petit peu le nombre de couverts, parce qu'en vieillissant, on a moins l'amour de se prendre une roast pendant au service. Donc, on aime bien travailler un peu plus dans le calme. Et du coup, on a réduit un petit peu le nombre de couverts et on est assez nombreux en cuisine. Donc, ça a permis des avancées encore un peu dans la technique. Et puis, on s'est ouvert à d'autres pratiques, la fermentation, par exemple, ce genre de choses. Donc, la cuisine, elle a encore évolué. Et elle est de plus en plus brute et de plus en plus épurée. Voilà, donc elle va évoluer encore. Mais oui, évidemment, on a fait des pas en avant par rapport à 2011. Ouais.
Est-ce que tu crées facilement les plats pour les différentes adresses ou t'es
On fait une minute prétentieuse, vous êtes prêts? Non, franchement, je suis nul dans plein de trucs. Je suis pas un grand manager, voilà, je suis pas un immense gestionnaire de food cost, je suis nul dans plein de trucs, mais il y a un truc où je suis bon quand même, c'est quand je me mets une liste de produits sous les yeux de saison, enfin qui sont disponibles, j'ai appelé les fournisseurs, je sais ce que je peux avoir, que je me mets autour d'une table et je commence à bosser, ouais, j'ai des idées qui viennent vite. Franchement, c'est peut-être vraiment le truc où je suis sûr de mon coup.
Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre aux clients?
À toi. La passion. L'émotion.
La passion. Qu'est-ce qu'on cherche à transmettre aux clients? Moi, je crois qu'on cherche à transmettre aux clients un bon moment, quoi. Ouais. On est restaurateur. On vend des petits plats et on essaye de le faire bien, de manière intelligente. Je pense que c'est juste on cherche un moment chouette, quoi, un moment cool, et suivant l'endroit il raconte une histoire différente, que ce soit chez Septime peut-être un petit peu plus recherché autour d'un menu en plus d'étapes, Clamato plus instinctif, plus péchu, plus enfin pas plus péchu que Septime, mais plus direct, plus vif, la cave un autre moment, et puis du Nil encore autre chose, peut-être de plus réconfortant et plus mais chaque endroit raconte une histoire différente et les clients sont là pour juste kiffer, quoi. On cherche plus, je trouve, à transmettre quelque chose aux équipes aujourd'hui qu'aux clients, à qui c'est vraiment un bon moment. Mais moi, pour ma part, en tout cas, c'est encore en train de... Ça travaille hein, tous les jours, mais je pense qu'aujourd'hui, après 15-17 ans de coupure au service midi et soir et tout, deux enfants, la foi, elle est plus dans la transmission aux équipes et dans le fait d'avoir des équipes à donf au service et hyper impliquées, hyper comme nous en fait, on peut l'être aujourd'hui différemment, mais vraiment dans le vif, le truc c'est vraiment les équipes, moi, pour aujourd'hui, qui sont importantes.
Ouais, je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait que le restaurant est pas trop ennuyeux, c'est qu'on n'a jamais cherché à transmettre vraiment le message de façon triviale comme ça. On est jamais été moralisateur sur le vin nature, sur les produits, leur provenance. On n'a jamais fait de name dropping, on n'a jamais cherché à apprendre quelque chose aux gens. On amène les gens, on passe notre message de façon intuitive, gentiment, par le plaisir. Franchement, on leur fait passer un bon moment et voilà. On a rien à apprendre aux gens. On est là pour leur faire passer un bon moment. On vend du divertissement. C'est pas voilà. Par contre, l'engagement au quotidien. Alors, de toute façon, il transpire dans la prestation, dans les assiettes, dans les vins. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes pour que les gens que le message passe. Et l'engagement quotidien, parce qu'on a quand même un engagement. Entier à plein de niveaux, il est effectivement avec les équipes, dans le rapport fournisseur, quand on a l'occasion de prendre la parole pour parler de ça, mais les gens quand ils viennent nous voir, qu'ils ont réservé un moment à l'avance, qu'ils viennent dépenser une certaine somme dans le cadre, ils sont juste là pour passer un bon moment.
Ça veut dire ce qui est oublié encore trop souvent aujourd'hui en France, à Paris, n'importe où, c'est de se bagarrer quand même pour les plus exigeants, pour les clients les plus relous, on peut le dire, hein. C'est pas les plus exigeants, les plus relous, et c'est plutôt que de rentrer en frontal, c'est aller faire le tour, aller les chercher avec de la bienveillance, leur expliquer ce qu'on fait, arriver à les faire comprendre, pas du tout décréter, pas du tout être donneur de leçons, encore une fois, au moralisateur, c'est ou avoir une petite grappe en or sur sa veste et expliquer ce que c'est qu'un bon vin ou un mauvais vin, c'est pas du tout ça, et pour les plats c'est pareil, l'approche est beaucoup plus transparente, simple, et c'est en faisant le tour et en allant les chercher, ces gens-là, qu'on fait notre métier, quoi, et que les gens ressortent contents, même les plus exigeants ou les plus sympas, ou voilà, c'est vraiment satisfaire le plus grand nombre, sincèrement, quoi. Je pense que le nerf de la guerre, il est là, et en restauration, c'est juste trop souvent oublié.
Est-ce qu'avoir un lieu où vous aimeriez être client, ça continue à être votre moteur aujourd'hui ?
Ouais, je pense que ouais, c'est aussi très important de se mettre à la place tout le temps du client. Donc quand on bosse sur les menus, quand dans le choix de la carte des vins, dans la façon dont on les accueille, on se met juste à la place des clients. Et ces lieux, ils ont toujours répondu à une attente. Il nous semblait qu'il y avait une attente. Ils ont toujours répondu à ce que nous, on aimerait en tant que client. Et du coup, que ça soit Septime au début, on s'est dit... On trouvait le Chateaubriand génial. Moi, j'avais retenu des choses géniales de mes expériences dans les grandes maisons. Théo avait appris tellement de choses dans les restaurants italiens de Julien, mais on avait envie de synthétiser tout ça. Et Clamato, c'est aussi comment faire un bar à fruits de mer, à poisson, un bar à huîtres en dépoussiérant la brasserie parisienne. Ça répondait à une attente. Il manquait un truc à Paris un peu de ce point de vue-là. Voilà, la cave aussi, c'est encore une autre idée du bar à vin, et voilà. Toujours ce challenge de répondre à l'attente des clients. Donc pour répondre à l'attente, il faut se mettre à leur place, il faut faire des... Et comme nous, on est des clients avant tout, parce qu'on est venu à ce métier vraiment beaucoup parce qu'on aimait aller au restaurant, donc...
Ouais, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Je sais pas ce que je vais vous renchérir, t'as tout dit, mais en gros, oui, évidemment, ça part toujours d'une intention de ressenti client. Enfin, c'est qu'est-ce qui, ouais, dans l'époque là, qu'est-ce qui va manquer, qu'est-ce qui pourrait y avoir, qu'est-ce qui serait trop bien, qu'est-ce qui serait génial, on part pas du tout jamais de la production ou de la cuisine ou de la salle. Non, on part toujours de nous, on s'assoit ou nous on va dans cet endroit. Qu'est-ce qu'on kifferait le plus?
Et d'un point de vue cuisine, au fil des années, je pense qu'on on a essayé de faire de moins de cuisine d'ego, moins compliquée, moins démonstrative. On pense quand même toujours, est-ce que ça va être délicieux quand même. Quand on couche des idées sur le papier et qu'ensuite on fait des tests, la vraie question c'est est-ce que c'est délicieux ou pas, quoi.
Tu goûtes ta cuisine ?
Il vaut mieux, non ?
Non, il y a des chefs qui goûtent pas, mais non, ouais.
Il doit pas y avoir beaucoup de chefs qui goûtent pas, ou alors c'est dangereux. Hein.
Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important de...
Non, elle est pensée sans goûter et ensuite elle est goûtée.
Vérifiée, ouais. Tu vérifies que ça marche.
Ouais, on vérifie que ça marche. C'est vrai qu'avec l'expérience, il y a des choses où on sait que ça marche. Mais non, il faut goûter sa cuisine, c'est la base. Hein.
Tu disais que le secret, c'était... un des secrets, c'est votre duo et le fait d'avoir chacun votre partie et de vous faire confiance. Mais c'est, je trouve aussi d'avoir la justesse en fait, de chaque détail. Vous y réfléchissez ou...
On y réfléchit, on fait que ça en fait.
Ouais,
on fait que ça. On fait que ça de 8h30 le matin jusqu'au coucher. Et peut-être un peu trop même des fois, mais oui, on pense aux détails, mais c'est un peu... lambda de dire ça, tout, je pense qu'aujourd'hui tout restaurateur, chef d'entreprise ou quoi, a la tête partout celui qui a l'envie de bien faire bosse comme un malade, quoi. Ouais, on bosse comme des cinglés tout le temps à réfléchir à n'importe quoi, à chaque fois qu'on veut écrire un mot, c'est pour ça qu'on est des piètres communicants, mais oui, à chaque fois qu'on écrit un mot, on se demande si c'est le bon ou si c'est machin, et si on change ça, si ça va. Peut-être que les gens vont se dire ça et que machin, et si on modifie le prix de ça, ah oui, mais attends, c'est sans fin, quoi. Mais je pense que c'est bien, ça fait partie de la remise en question et en tout cas de notre mode de fonctionnement qui marche, quoi, il me semble.
En tant que client, je trouve que c'est aussi ça qui ressort, qui est hyper important et pourquoi tu as envie de venir, c'est que quand tu es sensible aux détails, tu le vois et tu le ressens et ce qui est... hyper plaisant.
Ravi que tu le t'en rendes compte.
C'est en tout cas l'idée. Je ne sais pas quelle est notre bataille, même s'il y en a une, mais le combat de tous les jours, en tout cas pour, j'en suis sûr, hein, pour nous deux en cuisine, en salle, dans les endroits, tout, c'est qu'il y ait ce supplément d'âme, en gros. Et ce supplément d'âme, il a lieu que si on s'attarde à tous les détails et si on met de l'énergie dans n'importe quel geste, mouvement, décision. Et on est 50 encore une fois aujourd'hui, et le défi, c'est d'arriver à conserver cette dimension de cellule un peu familiale. Et surtout pas de devenir groupe. Moi, le mot est toujours un peu péjoratif. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est groupe, mais je pense que tout est là. Ça part de l'infiniment petit aujourd'hui, plus que jamais, et que le caractère familial et le supplément d'âme fait toute la différence. Pas juste la différence, toute la différence.
Après Septime, vous avez ouvert la cave, vous avez ouvert. Clamato et Dunil aujourd'hui, c'est une évolution nécessaire de grossir, de se diversifier quand on a un restaurant, ou c'était une envie, d'autres envies, est-ce que c'est économique, c'est la liberté, c'est quoi ?
Nécessaire, non, chacun fait ce qu'il veut. C'est le résultat d'une envie de terrain de jeu différent avec des opportunités. Donc, quand on ouvre Septime, un an et demi après, il y a ce petit fonds de commerce charmant, tout petit, qui se vend à côté, et on ne sait pas où entreposer du vin. D'abord, l'idée, c'est de mettre du vin là, puis en fait, on se dit on pourrait en vendre, et puis finalement, on fait une cave, et on se met à fond dans ce truc-là. Et puis derrière, il y a le garage MBK à côté de Septime qui se libère, il n'y a pas d'extraction, ça serait dommage de le laisser filer, donc on le prend, et qu'est-ce qu'on fait sans extraction ? Ben, on ouvre des huîtres. Et puis, on a envie de se mettre au vert, on cherche un nouveau projet, et puis les propriétaires du Nil débarquent avec leur dossier en disant « Vous croyez que ça peut se vendre, ça ? Vous pouvez nous filer un coup de main, peut-être, pour le dossier ?» Est-ce que... Et puis, à force de lire le dossier, on se dit « Mais attends, ça déchire, il faut le faire. » C'est des opportunités et des envies de terrain de jeu différents, parce qu'on aime bien diversifier nos journées. Et que ce soit de la déco, du service, du management ou de la cuisine, c'est chouette d'arriver à jouer dans différents registres.
Vous prenez autant de plaisir à vous exprimer sur les différents terrains de jeu ?
Enfin, moi, pour ma part, ouais, ça c'est oui, je complètement. De passer de la, c'est vraiment super agréable de passer de la campagne au problème. C'est, on traite les problèmes hein, globalement hein, dans la journée. Ça, notre quotidien, c'est des problèmes. Hein. Ouais, non, c'est voilà. Mais c'est hyper agréable. Moi, je faut pas l'oublier. Je trouve qu'on a une chance inouïe de passer de la campagne à... Alors, tout est ramassé rue de Charonne, donc ça, c'est en termes de gestion, c'est assez facile. Mais c'est super... J'ai rien à dire, c'est super agréable.
Mais ça, est-ce que ça vous nourrit aussi ? Ça vous donne de l'énergie et du recul presque sur les ouais. autres affaires ?
Ouais, alors d'abord, je pense que... C'est stimulant d'un point de vue créatif d'avoir des terrains de jeu différents. Ça se renvoie la balle. Parfois, on pense à des choses dans une adresse et ça finit par ruisseler sur les autres. C'est aussi un moyen de casser vraiment la routine du quotidien. Après, parfois, on est un peu dépassé. Moi, quand je rentre dans la cave, des fois, je me sens vraiment trop vieux. Il y a des trucs comme ça, mais on se réapproprie après les endroits. C'est assez marrant. Et puis après, en ce qui me concerne, mais je crois qu'on partage un peu ça, le fait de faire plus me permet de faire différemment, de faire moins finalement, d'avoir diversifié le travail, d'être obligé de déléguer pour que toutes les adresses puissent vivre à la fois avec et sans nous, ça m'a permis de prendre du recul. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a des équipes autonomes dans toutes les adresses, on peut pas être partout. Et du fait d'avoir délégué, mis des équipes autonomes, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait et de travailler différemment. Et ça, c'est vraiment agréable.
Ouais, d'avoir un semblant d'une direction artistique un petit peu plus précise aussi, peut-être plus lucide sur les endroits qui sont absolument pas pensés, en tout cas pour être des deuxième ou troisième adresses de Septime, mais des adresses hyper singulières à chaque fois. Et au quotidien, ça, c'est encore une fois ce que les équipes nous apportent à nous et ce qu'on leur renvoie, c'est le ping-pong perpétuel et hyper enrichissant.
Bon, allez, on va faire une petite pause aller-retour. Votre âge ?
38.
38.
Votre plat signature ?
J'en ai pas.
J'en ai un, peut-être. Non, je rigole, j'en ai pas.
Votre plat préféré à manger ?
La raclette.
Ah, salaud. Ah, salaud.
C'est vrai.
Une pâte à la Poutargue.
Le chef que vous admirez le plus?
Moi, c'est pas dur. Moi, ça va être. Non, vraiment, sincèrement. Sans... Ah non, mais c'est... on raconte des blagues. Non, c'est Bertrand. Pleurer. Bertrand, en tant que chef que j'admire le plus. Et j'aime beaucoup Victor. Je sais plus son nom de famille. Victor de chez Etchebarri. Azador Etchebarri, hein, en Espagne.
Tatiana Leva.
Votre ingrédient préféré?
Le beurre. J'adore le beurre.
Et ton ingrédient détesté?
Le gombo.
Ton ustensile fétiche? T'as le droit de répondre, Théo.
Le Tocqueuf.
Excellente réponse. Le tire-bouchon.
Votre dernier meilleur repas?
Double dragon.
Ça va faire un peu snob, mais c'était au Mexique. Expendio de maïs à Mexico City.
Le meilleur compliment qu'on vous ait fait?
Je sais pas.
Il y en a trop.
Moi, c'est un cadeau, le meilleur compliment. C'est des clients siciliens, oui. Et des clients hyper contents qui nous ont envoyé un vase pour m'en remercier. On a l'impression que le type, et c'est un vase, c'est une tête en fait, on a l'impression que c'est moi, mais je suis pas sûr.
C'est eux qui l'ont fait.
Ouais, c'est,
donc c'est toi.
Ah, c'est un truc qui a l'air vraiment ouais, sincère et fou, quoi. Je sais pas, j'ose, j'ai peine à croire que c'est moi, mais quand même il me ressemble vraiment, le vase.
Et la pire critique, c'est le vase aussi, non?
Non. Bah, disons que ouais, je l'ai pas mis sur, je l'ai pas trop mis chez moi. Je suis désolé. La pire critique, c'est dur. Si, il y a un jour, il y a un confrère dans une interview qui a dit que ce qu'on faisait, c'était consensuel. Ça m'a super énervé.
Ouais, c'est vrai que c'est hyper énervant. Moi aussi, c'est ma pire critique, ça. Alors.
Non, mais je pense, ça m'a énervé parce que j'avais envie de dire, si parce qu'être gentil avec les gens, essayer de faire des trucs bons, c'est consensuel. Ok, c'est consensuel chez nous, quoi.
On ne peut pas parler de Septime sans parler de conscience environnementale, quand même. D'ailleurs, vous avez reçu le prix du restaurant durable en 2017 au World 50 Best. C'était là depuis le début, cette conscience environnementale.
Je pense, oui, globalement, c'était sous-jacent. Enfin, c'était là dès le début. Après, ça, on a essayé de durcir un peu l'engagement au fil des années. Mais oui, c'était là depuis le début. Après, on essaie de s'améliorer chaque jour là-dessus aussi.
Ça se matérialise comment? Parce que vous avez fait vraiment des gros efforts, si on peut dire. Et est-ce que, pour les autres restaurateurs, pour écouter ou les gens, j'aimerais savoir si c'est coûteux. Enfin, c'est vraiment un effort à faire.
Alors, pour essayer de synthétiser un petit peu. L'idée, c'est quand même de remettre le vivant au cœur des préoccupations. Donc, ça passe évidemment par un sourcing irréprochable, des vins faits dans le respect de l'environnement. Ça, c'est la base. Hein. Je parle même pas de saisonnalité, parce que bon, c'est quand même, il serait temps que ce soit acquis. Et puis après, c'est un travail sur comment on traite ses collaborateurs. Je pense qu'on a on a progressé beaucoup là-dessus quand même, dans le management et dans leurs conditions de travail. C'est du travail sur les énergies en général, utiliser un maximum d'énergie renouvelable, c'est trier ses biodéchets, donc au quotidien c'est des choses coûteuses en termes de temps et d'argent, et philosophiquement c'est un truc vraiment, c'est essayer d'instaurer quand même une autre ambiance et remettre l'humain au cœur des préoccupations, quoi. L'humain, le vivant, tout ça étant la même chose.
Ouais, c'est pas juste un truc d'environnement, c'est aussi quelque chose qui est infuse dans tous les établissements et sur ce que tu disais, le management et sur la façon de traiter un peu tout.
Ouais, je pense, c'est exactement ce que tu dis, c'est mettre le vivant au centre. Et plus que jamais aujourd'hui, à une époque en plein coronavirus où les avions volent à vide pour conserver les espaces aériens et les créneaux horaires, donc dans un monde où on marche sur la tête. Et ce qu'aujourd'hui on essaye de transmettre aux équipes au quotidien, c'est peut-être de retrouver un peu ce bon sens paysan et de la logique dans les attitudes de récupération. De l'eau, des pluches, le traitement des biodéchets, tout ce qui peut au quotidien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites humainement, je pense. Et après, évidemment, ça coûte parfois un peu plus cher, mais on n'a plus le choix de toute façon. Là, on est obligé de montrer et d'être responsable aujourd'hui.
Et après, d'un point de vue de... Juste deux mots là-dessus, mais un point de vue sur le statut du chef, et du chef et du patron, finalement. On essaye de montrer à nos équipes, de transmettre un modèle de vie aussi un petit peu différent. Le fait d'avoir pris du recul en ouvrant plusieurs adresses et en travaillant différemment, ça veut dire prendre du temps pour soi et pour sa famille et montrer qu'un chef, aujourd'hui, c'est pas l'autorité omniprésente comme on le voit encore dans les grandes maisons ou comme on le voyait à l'ancienne. Et que on peut fonder une famille, être restaurateur, on peut travailler de façon éthique, avoir un resto plein, être créatif, faire ce métier du mieux qu'on peut et montrer un autre modèle qui est plus inclusif et plus basé sur le collectif plutôt que sur la figure unique d'un chef, quoi.
Ça s'apparente vraiment encore à transmettre, je pense, cette idée. Le restaurateur a souvent eu cette image de vendeur de soupe, là. Et je pense qu'aujourd'hui, du kebab aux 3 étoiles, il faut réfléchir ensemble à une croissance différente, qui n'est pas forcément une décroissance, mais une croissance alternative, c'est-à-dire mieux travailler, mieux réfléchir sur la manière de laquelle on arrive à un résultat, et que ce soit un investissement personnel pour les équipes et également pour les dirigeants, et qui ne passe pas forcément par la maximisation d'un profit, quoi.
Vous êtes tous les deux papa. C'est vrai qu'on parle beaucoup des mamans chefs qui s'organisent pour le travail. Mais le fait d'avoir eu des enfants, vous avez changé des choses dans votre rythme chacun pour...
Bien évidemment, on a en plus, et l'un et l'autre, des épouses, femmes, chefs d'entreprise qui bossent comme des dingues. Et du coup, ça demande à la fois un équilibre et une organisation implacable. Donc ça a forcément changé. Les coupures sont plus les journées ne sont plus les mêmes, les réveils sont plus les mêmes, mais comme beaucoup de gens. Après, c'est vrai que restaurateur, c'est un métier un peu particulier, quoi.
C'est possible de s'organiser, d'avoir une famille, d'être restaurateur et de profiter quand même de ses enfants.
Ouais, je pense que dans le passé, les générations de chefs, hormis les raisons économiques, il y avait quelque chose de... On devenait chef reconnu au mérite et il fallait souffrir pour avoir la reconnaissance. Souvent, les objectifs, c'était d'avoir plein d'étoiles, etc. Donc, pour avoir plein d'étoiles, il faut être dans son restaurant midi et soir toute l'année. Et c'est ce que je disais, il y avait un modèle de chef omniprésent, autoritaire, etc. Je pense que ça, c'est à déconstruire et c'est ce qu'on fait pour avoir une vie de famille et pour pouvoir avoir une répartition... équitable avec sa compagne ou son compagnon. La seule chose, c'est de faire des sacrifices d'un point de vue du travail, mais pas d'énormes sacrifices, juste s'organiser et décider qu'en fait, un restaurant, il peut vivre sans le chef si tout est très bien structuré. Et moi, ayant une compagne chef, ça s'est matérialisé tout de suite. C'était très concret, en fait. Combien de coupures par semaine, qui fait quoi, pourquoi elle rognerait sur sa carrière plus que moi? Évidemment, il n'y avait pas de raison, donc on a coupé la poire en deux et on s'organise... Voilà, mais ça implique que je suis pas tout le temps au restaurant. Et c'est pas grave, hein, on survit.
Et concrètement, alors?
Concrètement? Tu veux du détail, les horaires, oui, de la nounou et tout?
Non, mais combien... Enfin, tu non, vois, mais en gros... Vous êtes organisé,
si alors, on est... bah, c'est simple. Bah, si tu veux, on fait vite, mais... mais oui, pour ceux que ça intéresse, y a 5 soirs dans la semaine, Septime. Alors, toutes les autres adresses fonctionnent évidemment sans moi. Avec au quotidien, je parle, mais évidemment, je suis tout le temps en train de remixer les menus, etc. Mais et Septime fonctionne davantage avec ma présence, surtout pour les lancements de nouveaux menus. Et donc ça, c'est un moment indispensable où je peux pas, où faut que je sois là. Mais après, dans le fonctionnement des semaines, évidemment, je peux être sur 5 soirs, je peux être absent 2 soirs, je peux être absent jusqu'à 3 soirs ou un soir si c'est une semaine où je pense qu'il faut remettre des choses au clair. Et pareil pour Tatiana. Et du coup, en fait, en prenant une nounou de temps en temps, on arrive quand même à être 3 soirs sur 5 à la maison. Et en fait, on est présent dans nos restaurants, on a des enfants qui nous voient, et ça se passe bien, quoi.
Ouais, dès le début, de toute façon, sans avoir d'enfants, on avait décidé de fermer Septime le week-end. Donc, par rapport, oui, à d'autres restaurateurs, on a quand même... alors, Septime qui est fermé le samedi et le dimanche, même si Clamato, du coup, on a fait un peu le contre-pied à l'ouvrir en continu. Ça nous permettait d'être off le week-end. Et donc, ça, déjà, c'était un grand progrès social et familial. Et puis à côté de ça, ouais, comme le dit Bertrand, je pense que c'est vraiment une histoire de faire évoluer le métier, de d'être là les semaines où il y a le changement de menu particulièrement, et puis de te transmettre, d'infuser le message auprès des équipes à fond pour que le métier est un peu différent. Mais c'est salvateur pour la famille et pour l'équilibre du couple.
Bertrand, je lisais un article où tu disais que la cuisine de Septime s'était éclaircie et qu'elle avait gagné en maturité et en singularité après la paternité. Comment tu l'expliques ?
Waouh.
Tu te rappelles pas avoir
dit ça ? Si, non, mais je le confirme. alors, comment je l'explique ? Oui, la responsabilité fait un peu évoluer, fait progresser dans la maturité. Je pense aussi que, même si je suis encore un peu sanguin ou nerveux parfois, avec la pression des restaurants, je pense quand même que les enfants m'ont apaisé un peu. Donc ça permet aussi de réfléchir mieux. Quand on est en colère, on réfléchit moins bien. Et donc les enfants, ça apaise. Et quand on est apaisé, on réfléchit mieux. Donc on est sans doute plus mature. Et puis le temps juste a fait que c'est plus abouti et plus mature. Après, je sais pas, c'est un peu impalpable. Mmh. C'est juste un constat.
Mais c'est pas lié aussi à un recul que t'as pu prendre ?
Oui, mais encore une fois, ça va avec l'idée de travailler différemment pour prendre du recul. Et même si on est moins dans le quotidien, on a, je pense, une capacité à analyser la situation et à progresser, à rectifier, finalement plus efficace. Moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi bon que depuis que je suis moins présent.
Vous êtes quel genre de patron ?
Je ne sais pas quel genre de patron on est, mais en tout cas, quel genre de patron on aimerait être. Moi, quel genre de patron j'aimerais être ? En tout cas, ce serait arriver à surtout pas perdre pied avec l'opérationnel, surtout pas être déconnecté et enfermé dans là-haut. On n'a pas 1000 employés comme David Chang, voilà. Moi, j'aimerais pouvoir toujours rester au contact des équipes et sentir le feu des restos et jamais perdre ce truc-là qui a été quand même pour moi ce qui m'a planche de salut et ce qui m'a fait faire ce métier.
Quel genre de patron ? Moi j'essaye d'être c'est pas facile, hein. J'essaie d'être juste, d'être à l'écoute. Et après, on se met quand même une bonne pression. On a une pression du temps et des exigences des gens qui est très présente. Donc la cuisine, c'est quand même très dur d'avoir un management exemplaire. J'y travaille. Je pense qu'entre le premier jour et aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. J'ai fait beaucoup de progrès, mais c'est dur d'être dans le contrôle permanent, de transmettre en douceur. C'est là-dessus que je travaille. Mais en tout cas, en attendant d'être complètement au point, j'essaie d'être juste dans... Et à l'écoute. Après, c'est un peu comme la quête du style en cuisine et tout. Je crois qu'il faut un peu une carrière pour arriver à être le patron qu'on aimerait être. Moi,
du bon manager.
Ouais, la quête du bon manager. Il y a un truc important, c'est que le métier de cuisinier... Nous, on a fait des études de générales jusqu'à un certain point. On vient de milieux relativement de classe moyenne plus, même aisée. On est éduqué, on a des parents cultivés, hein, enfin à peu près. Mais on n'a pas eu non plus de grosses formations de management. Et d'ailleurs, c'est une vraie lacune, je pense, dans l'apprentissage de la cuisine. Et ces chefs qui ont démarré même à 15 ans et qui sont mis sur un piédestal, qui se retrouvent à gérer des groupes et qui n'ont pas eu de formation de management, je pense que c'est une vraie lacune. Donc nous, on compense aussi cette lacune. Donc c'est pour ça qu'on apprend chaque jour. Voilà, mais moi, j'essaie d'être juste. Voilà, mais c'est pas simple.
Ouais, vous apprenez sur le tas.
Le management, enfin... ouais, complètement. Enfin, je sais pas toi, mais...
Ouais, on lit des livres, ouais. On parle, on échange avec d'autres, moi de plus en plus. Enfin, autant on avançait vraiment tête baissée dans un quotidien qui était ultra, ultra prenant, qui l'est toujours, mais en prenant un petit peu de hauteur, en prenant un peu de recul, ouais, échanger un maximum pour ça va et toi, comment tu fais, etc. Il y a des gens, que ce soit Alice et Anselme de Ten Bells par exemple, avec qui on essaye, enfin entre autres, il y en a d'autres, hein, mais avec qui on aime beaucoup échanger sur parce que ou Samuel et Alex de chez Terroir d'Avenir, voilà, toute cette génération un petit peu de trentenaires, bientôt quarantenaires, qui essayent d'inventer, c'est un grand mot, mais d'inventer un nouveau modèle, un truc un peu différent, quoi. Je trouve ça hyper intéressant, les discussions qu'il peut y avoir entre nous.
Vous vous présentez comment aux gens qui ne vous connaissent pas, s'il y a des gens qui ne vous connaissent pas ? Chef, cuisinier, sommelier, restaurateur, directeur de salle ?
Comment on se présente ? Moi, ça dépend de qui j'en fasse. C'est comme en salle, on doit s'adapter en 7 secondes. Non, comme c'est un métier qui est un peu plus difficile à nommer, oui, restaurateur. Restaurateur, essentiellement, hein, je crois. Ouais, ouais.
Ouais, moi aussi, restaurateur, cuisinier. Ouais.
Et tu cuisines encore, Bertrand ?
Plus beaucoup, en fait. Je cuisine beaucoup à la maison, il faut savoir, pour les enfants. Non, mais je cuisine moins, c'est-à-dire que le moment où je cuisine le plus, c'est quand il y a des gens qui viennent manger et que tout d'un coup, j'ai envie de m'occuper d'une table parce que c'est quelqu'un... parce que c'est des gens avec qui j'ai envie de communiquer ou que j'ai envie de leur faire découvrir quelque chose de fait sur le moment. Ça, il m'arrive de choper une table comme ça... que ce soit des gens du métier ou de la famille ou des amis. Là, c'est le moment où je cuisine le plus parce que je me mets au piano et je fais tout seul. Et après, je pense beaucoup les choses, je les fais faire et je les goûte et je rectifie parfois. Je montre un geste, une découpe, voilà. Mais je cuisine plus. C'est pas moi qui fais mijoter, quoi, pour être franc.
Et ça te manque ?
Pas vraiment. Non, mais c'est vrai. J'ai une passion pour ce métier, mais je sais pas si j'ai une passion pour être les mains dedans matin et soir. Voilà, il y a des gens qui ont une faculté à tous les matins venir au boulot, lever le poisson, même s'ils ont 20 ans de métier et qu'ils sont et c'est génial, il en faut. Moi, j'ai une passion pour tout le reste, pour les idées, pour trouver les produits, pour goûter en général, mais voilà, être celui qui coupe, qui casse, qui mijote, qui matin et soir, c'est plus une passion.
Et Théo, t'es encore en salle ?
Ben, on a fait évoluer un peu notre rythme de la même manière. Oui, je suis toujours en salle ponctuellement, en fait, mais les équipes sont autonomes. Ouais, il y a déjà 2-3 ans, j'ai décidé de sortir de l'effectif pour continuer à venir faire des services, qui d'ailleurs sont pas les meilleurs, parce qu'on est là, moi je suis là à leur casser les pieds sur un milliard de trucs alors qu'ils font très bien leur taf quand je suis pas là, mais voilà, donc oui, je suis en salle, mais relativement en tout cas.
Qu'est-ce qui vous excite le plus dans votre nouveau quotidien, dans votre quotidien de restaurateur?
Le nouveau projet en cours, quand il y en a un. On est souvent, quand on se met sur un nouveau projet, il y en a eu 4 gros, mais il y en a des petits aussi au sein dans le quotidien. Les nouveaux projets, là, il y a toujours un moment d'excitation quand on se lance dans un nouveau truc. Mais dans le quotidien, moi, c'est de voir sortir des nouveaux plats, là. Les premiers jours où on a bossé sur des plats, et puis ça sort, et puis c'est beau, et puis c'est bon, et puis les gens sont contents. Voilà, et pendant quelques services, c'est ce qui, ça me, enfin, ça me, vraiment, ça me fait plaisir. Et après, le quotidien, la routine, j'ai moins de passion pour ça maintenant. L'envoi, répétition, c'est vrai que j'ai moins de passion pour ça. Et dernière chose, je pense que cette année, ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est l'organisation d'une journée pour le personnel où on a fait des mini-conférences. C'était un petit peu sérieux, hein, comme journée. C'était pas une grande beuverie comme on avait déjà fait dans le... dans le passé, on s'est tous retrouvés, on l'a organisé ensemble, Théo, Alessia, qui travaille au bureau avec nous, et moi, et puis un peu les responsables. On a organisé une belle journée avec des intervenants qui comptaient. Et ça s'est terminé par un dîner, hein, tous ensemble, mais on a fait venir, je ne sais pas, Yves Candebord pour parler de cette époque-là, de ce qu'on a appelé la bistronomie, sans quoi on ne serait pas là, parce qu'il y a des gens de 20 ans dans l'équipe qui ne savent même pas que ça existe. On a fait venir Alice et Anselme de Ten Bells, Edouard Bergeon, le réalisateur de Nom de la Terre. Voilà. Théo peut en parler aussi, je pense que ça l'a animé aussi.
Non, c'est vrai, ouais, ça a été vraiment, vraiment super. C'était il y a quelques mois et on s'est vraiment posé des questions sur le futur. Ça, c'est très excitant en ce moment sur tout ce qui peut être formation ou en tout cas éveil, que ce soit pro ou pour les équipes. Ou plus diffusé à sens large, mais ça c'est très excitant dans notre quotidien. C'est théoriser et rendre concrètes ces discussions qu'on a tous les jours à travers des intervenants. On a des pages et des pages de gens qu'on a envie d'appeler pour pouvoir animer des conférences, des formations et transmettre. Parce que les jeunes là, qui bossent chez nous, à 20 ans, ils connaissent pas forcément l'histoire et le comment on en est arrivé là, quoi. C'était tellement passionnant d'entendre Yves Canbord raconter la régalade et son parcours au crayon. Aujourd'hui, il travaille chez Septime. Comment on en est arrivé là, quoi? Et si personne ne raconte ça, si on n'en parle pas, si on ne le transmet pas, ce truc-là, on va repartir dans les mêmes travers qu'avant, c'est sûr et certain.
Comment vous définissez Septime aujourd'hui? Un grand restaurant ou pas?
Dans le film, c'est un grand restaurant. Septime, c'est un restaurant dans son époque. C'est le résultat de cette époque d'avant, là. Il y a eu ce qu'on a appelé la bistronomie, il y a eu toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est rien de tout ça, hein. Septime, c'est l'aboutissement peut-être de ce truc-là. Et on n'est plus tout seul, hein. Il y a d'autres restaurants dans la même catégorie, la même veine, les mêmes convictions et tout. Mais je pense que c'est un vrai restaurant de son époque, engagé, voilà, tout simplement, quoi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire.
Ouais, non, je suis assez d'accord. Restaurant engagé, ça me va bien, même pour toutes les adresses. Qu'on a des adresses engagées et qu'il y ait quelque chose à raconter, qu'il y ait quelque chose à dire, qu'il ne soit pas en train de dormir, que ce soit toujours en mouvement, que ce soit toujours. Je pense que les restaurants non de sens, enfin les nôtres en tout cas, non de sens que parce qu'ils sont vivants et toujours stimulés par des nouvelles choses. Et que si c'est mort, c'est mort, quoi. On s'ennuie et c'est plus la peine de le faire.
Comment vous voyez Septime dans 10 ans et Stone?
la réaction...
Moi, dans 10 ans, je suis plus là. Je suis sur la plage. Moi, ouais. Je rigole.
Non, mais moi, assez sérieusement, j'imaginais que dans 10 ans, je serais peut-être
à la retraite.
Je serais plus là, quoi. Je pense que si Septime existe encore dans 10 ans, et c'est parce qu'il est encore dynamique. Sinon, il faudra vendre s'il n'y a plus la foi. Et pour qu'il soit encore dynamique, je pense qu'il faudra qu'on a prennent à rencontrer les bonnes personnes pour prendre le relais avec l'énergie de la jeunesse qui les caractérisera. Et que moi, je ne suis pas sûr d'avoir le jus pour faire vivre Septime de façon aussi dynamique pendant 20 ans. Donc, il faudra passer le relais, donner leur chance à des gens qui ont envie de le faire vivre dans la même veine, en respectant l'ADN du lieu. Mais voilà, sinon, on vendra, on fera autre chose.
Et on trouvera bien, on a plein d'idées.
Tu parlais de faire... tu faisais beaucoup la cuisine à la maison. Et je voulais vous demander une recette. Voilà, une recette facile. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais à tes enfants? Qu'est-ce que vous faites à vos enfants?
Moi, je leur fais toujours la même recette. Non, c'est pas toujours la même recette, mais je fais des pâtes avec... Avec un beurre de parmesan et un trait de sauce soja dedans.
C'est ma recette, hein?
Ouais, c'était filé et en fait, je leur fais ça tout le temps. C'était une... Mais alors, c'est un peu la recette de Bertrand, mais pardon.
Non, mais ça va, j'en ai d'autres.
T'en as d'autres? On fait des pâtes normales et la fin de cuisson se termine dans une casserole avec un gros morceau de beurre, beaucoup de parmesan râpé, et c'est lié avec un gros trait de sauce soja.
Du beurre doux, hein, sinon c'est trop salé.
Ah oui, oui, évidemment. Et une très bonne sauce soja, pas de la kikkoman.
Moi ça dépend des moments, là en ce moment elle mange pas grand chose Anna, donc sinon il y a un truc, je sais pas comment on a fait, mais on lui a donné l'amour de la salade composée, elle avait à peine parlé, elle disait salade composée, et du coup en fait ça marche que l'été parce que c'est l'hiver, il n'y a pas assez de diversité, mais quand il y a des fèves, des haricots verts, des tomates cerises, du maïs avec un chèvre frais et tout ça, je sais pas, on lui a donné goût à la salade composée alors que c'est très compliqué visuellement. Et du coup, on met plein de crudités ou de légumes blanchis rapidement dans une assiette. On arrose d'huile d'olive, un chèvre frais et elle se régale de ça, quoi.
Merci Bertrand, merci Théo.
Merci à toi.
Merci.
C'était Théo Pouria et Bertrand Grébeau dans la saison 3 d'À Poil. Pour découvrir leurs adresses, rendez-vous du côté de la rue de Charonne à Paris, au Septime, Clamato ou Septime La Cave, ou dans le Perche, chez Dunil. Pour en savoir plus, rendez-vous sur septime-charonne.fr. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Pour ceux qui viennent de découvrir À Poil, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode.
Cet épisode a été enregistré et monté par Studio Ochenta, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.